Priscille Rockberg, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour, merci.
Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Témoignage du poison au pardon » paru aux éditions du Sacré-Cœur. Vous allez donc nous donner votre témoignage en rapport avec ce livre. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc, enchantée. Priscille Rockberg, je suis maman de 4 enfants, mariée. J'habite en Vendée et je suis de formation aide-soignante. Mais pour l'instant, je m'occupe de mes 4 enfants.
J'imagine voilà. Que ça demande beaucoup de travail.
Oui, bien sûr. Beaucoup.
Alors, nous allons écouter votre témoignage et on se retrouve ensuite pour un temps de questions-réponses.
À tout à l'heure. Donc, je m'appelle Priscille. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. C'était très important pour mes parents que mes sœurs et moi sachions où était le chemin, la vérité et la vie. Donc l'éducation chrétienne était très importante. Je suis la deuxième de 5 filles. Et nous avons vécu les premières années de notre vie dans le sud, à Arcachon, au bord de la mer, du coup. Et à ce moment-là, tout se passe bien. Mes parents s'aiment. On est élevés, je suis élevée. Vraiment, c'est harmonieux, une vie de famille harmonieuse, malgré un papa qui est déjà un peu fragile et qui est assez autoritaire et assez brutal dans sa manière éducative. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, je sais qu'il m'aime. J'ai des câlins, j'ai de l'affection de mon papa. Donc ça équilibre la balance, on peut dire ça comme ça. Et quand j'ai 6 ans, on déménage dans la région parisienne. Et à ce moment-là, très rapidement, je commence à voir que mon père change, que mon père perd son humour, qu'il a plus sa joie de vivre. Et très régulièrement, je le vois allongé sur son lit en train de dormir. L'ambiance familiale se met à changer. Et je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je vois que ma mère est triste. Et un jour, quand je rentre à la maison, sans doute de l'école, je me rends compte que mon père n'est plus là. Et à ce moment-là, ma mère nous explique qu'il est parti se reposer à l'hôpital. Donc, on m'explique que mon père fait une dépression sévère. Et à ce moment-là, je suis une petite fille pleine de vie et très optimiste. Et du coup, je comprends que la dépression, c'est une grosse tristesse. Et je sais que, en me basant sur ma petite expérience à moi, je sais que quand je suis triste, le sourire finit toujours par revenir. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et au final, on passe 3 ans avec ce papa qui alterne entre les séjours à la maison et les séjours à l'hôpital parce qu'il n'arrive pas à dépasser cette grosse dépression. Et à 9 ans, on part en vacances avec ma famille, avec mes sœurs, ma mère et mon père. Et on est en train de jouer avec certaines de mes sœurs dans une pièce. Mon père est en train de dormir dans la pièce d'à côté. Et là, on entend un énorme vacarme. Ma mère n'est pas là. Et on se précipite dans la chambre où mon père est en train de dormir. Et là, on le voit effondré par terre. Il est tombé ayant entraîné les rideaux, les chaises. Et quand il se relève, je vois le visage de mon père pour la première fois. Je ne reconnais pas ce visage. Il est rouge, gonflé, il transpire. Il n'est pas dans son état normal et ça, je le comprends tout de suite. Et il me fait peur à ce moment-là. J'ai peur parce que je ne le reconnais pas. Donc avec mes sœurs, on se précipite dehors et ma mère finit par rentrer. Et là, elle comprend qu'il faut qu'elle nous explique ce qui se passe. Et pour la première fois, donc à 9 ans, j'entends ma mère nous parler de l'alcool et nous dire que notre papa boit trop de vin, qu'il faut l'aider, qu'il faut prier pour lui. Donc c'est un événement qui est assez traumatisant pour moi. Et en même temps, comme j'ai été élevée dans la foi chrétienne, je sais que Dieu écoute les prières. Je sais qu'on peut se confier, en Dieu. Et que du coup, finalement, c'est pas grave que j'ai qu'à prier pour mon papa. J'ai des tas d'idées. Je mets des petits mots sous son oreiller. Je lui dis que je l'aime. Je lui demande de s'en sortir. Je lui demande de s'accrocher. Je mets des images de Jésus près de ses bouteilles de vin. Je mets de l'eau de Lourdes dans ses verres de vin aussi. Et je prie beaucoup pour lui. Je fais tous les soirs une dizaine de chapelets. Voilà, je suis une petite fille qui a une grande foi à ce moment-là. Et le problème, c'est que l'ambiance familiale empire. Mon père, qui au départ n'est pas violent, finit par être violent envers ma mère. Et voilà, je vais passer plusieurs années à m'interposer entre mes parents, à espionner tout le temps mes parents, dès qu'ils sont en train de parler enfermés dans une pièce, parce qu'il faut que je sois prête à intervenir si jamais la discussion tourne mal. Je passe donc plusieurs années à appeler la police, à menacer mon père, à voir la police débarquer et embarquer mon père en cellule de dégrisement. Avec ma maman et mes sœurs, on s'enfuit régulièrement de la maison. Donc, pendant plusieurs années, ce sont des fuites de la maison, à vivre parfois dans la même ville que mon père, mais à devoir vivre caché avec les volets fermés, à devoir s'enfuir parfois un petit peu plus loin, et puis ça arrive qu'il nous retrouve en plein milieu de la nuit et qui frappe partout avec son bâton pour rentrer dans la maison. Donc, c'est un environnement assez traumatisant pour la jeune fille que je suis. Ma maman porte plainte à plusieurs reprises, donc c'est des tribunaux, c'est des jugements, avec des juges d'application des peines. Et au milieu de tout ça, ma foi, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, je suis convaincue que Dieu existe. Ça, j'en ai jamais douté. Par contre, je suis aussi convaincue que ma famille et moi, on n'est pas assez importantes pour que le bon Dieu s'occupe de nous. Clairement, il nous a abandonnés, c'est pas possible qu'il nous aime et qu'il prenne soin de nous pour nous laisser sombrer à ce point-là. Et donc, petit à petit, comme tout tourne autour de cette ambiance familiale-là, l'école, c'est compliqué pour moi. L'école, c'est trop me demander. Je donne déjà absolument toute mon énergie à vouloir protéger ma mère et essayer de survivre dans cette ambiance familiale-là, que du coup, l'école, je n'y arrive pas. Et ma soif de vie, en fait, va trouver son ancrage dans la haine. Parce que finalement, la haine me permet d'exister, me permet de vivre. Et donc, je vais nourrir petit à petit cette haine, la découvrir et l'aimer. Et c'est ma seule porte de sortie. Donc, cette haine et cette volonté que mon père meure. Donc, pendant plusieurs années, je vais écrire un journal intime en parlant de la mort de mon père, en l'insultant. Nos relations aussi sont assez conflictuelles avec lui. J'ai absolument pas peur de me mettre devant lui et de l'insulter. On s'envoie des mails d'insultes, lui et moi, ou des mails assez violents. Et puis, jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où en fait il se passe un événement assez violent, mais qui ressemble en fait à tous les autres. Et ce jour-là, je me rends compte que je n'ai plus de limite dans ma haine, et que l'étape d'après, ce sera en fait moi de réussir à le tuer. Et c'est assez dramatique pour moi. Ma haine ne peut plus être contenue du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un sursaut de vie en moi. Et je me dis, je veux vivre. En fait, je veux vivre. Et la seule manière pour que je puisse vivre, c'est que je m'arrache de cette situation-là. Et donc, c'est très compliqué parce que j'avais promis à ma mère que jamais je l'abandonnerais, que je ne construirais pas ma vie tant qu'elle serait prisonnière de cet homme. Et à ce moment-là, s'impose à moi le choix de quitter ma famille. Et donc, j'ai 18 ans. Et à ce moment-là, je décide du coup de partir comme jeune fille au pair en Irlande. Et c'est la première fois que je pars de cette ambiance-là, j'arrive à m'extirper de cette prison. Et je me retrouve en Irlande, donc à devoir m'occuper de 4 enfants, ne connaissant que très peu de mots d'anglais. Et c'est une première renaissance à ce moment-là, parce que je me rends compte que je suis quelqu'un, que ça fait 18 ans que je vis avec... un poison, le poison de l'alcool autour de moi, la haine. Mais la haine, elle me va encore très bien à ce moment-là. J'ai bien envie de la garder avec moi. Et c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, c'est que j'apprends à marcher à 18 ans. Je ne sais pas ce que j'aime en passant par les goûts les plus simples comme certains légumes ou des tas de choses, en fait, plein de petits détails. Ben, je suis incapable de savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et également incapable de savoir ce que je veux pour ma vie, ce que je veux construire, ce qui est important, mes fondamentaux, ce que j'ai envie de choisir, le chemin que j'ai envie de choisir. Et voilà, c'est magnifique, je suis libre maintenant, mais comment je fais? Parce que je ne sais pas ce que ça implique et ce que ça veut dire. Donc je passe une année en Irlande à réapprendre à marcher ou à apprendre à marcher tout simplement. J'ai plus de contact avec mon père à ce moment-là. Et après un an, du coup, je rentre chez moi. Cette année m'a fait beaucoup de bien. Et là, sort au cinéma La Passion du Christ. Et j'y vais parce que j'ai été élevée dans la foi chrétienne, parce que c'est normal d'y aller, parce que je sais que Dieu existe, que Jésus a existé, et que du coup, c'est normal que j'aille voir ce film au cinéma. Et dans la salle de cinéma, au moment où Jésus se fait torturer, ben là, je croise le regard de mon frère, le frère que j'ai jamais eu. Et je comprends que Jésus, ce qu'il est en train de vivre là, sous mes yeux, il est en train de porter toute la souffrance que je porte depuis autant d'années, que c'est lui qui l'a portée en premier pour que je sois sauvée. Je comprends donc que j'ai jamais, absolument jamais été toute seule, qu'il souffre avec moi, qu'il a pleuré avec moi quand je pleurais, qu'il a tremblé de peur avec moi quand j'ai tremblé de peur, que tout ce qu'il est en train de vivre là, en ce moment, c'est pour que je sois sauvée et c'est pour... qu'il m'aime d'un amour tellement infini qu'il est en train de porter ce que je porte. Et à ce moment-là, je n'ai pas rencontré Dieu, le Père. C'est encore une autre paire de manches. Mais j'ai rencontré mon frère. Et je sors de la salle de cinéma vraiment bouleversée, en étant convaincue que ce que je viens de vivre, c'est la vérité. Parce que je l'ai compris avec le cœur. Et à ce moment-là, je m'engage dans des groupes de prière et je suis convaincue que ça y est, je suis guérie parce que j'ai découvert l'amour avec un grand A. Et donc, par cette découverte-là, Jésus m'a guérie de toutes mes blessures, de tous mes traumatismes. Et c'est assez douloureux finalement, au fur et à mesure des semaines ou des jours, de me rendre compte qu'en fait, non, je ne suis pas encore guérie et que je ne suis pas encore arrivée et qu'en fait, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence avec Jésus, que j'ai besoin d'être consolée, que j'ai besoin d'être prise dans les bras, que j'ai besoin de pleurer et que Jésus va m'accompagner dans ce chemin-là, mais que ce chemin va demander du temps, que ça va être encore douloureux quelque temps, mais je sais que c'est le bon chemin. Et donc, on me parle de l'importance d'avoir un accompagnateur spirituel. Donc j'en choisis un qui est un frère de la communauté des Béatitudes. Et ce frère, pour la première fois, me parle du pardon. Il me demande si je pense qu'un jour je serai capable de pardonner à mon père. Ce père que j'ai supprimé de ma vie. Et là, c'est extrêmement violent pour moi. Parce que si Dieu, que j'ai tellement de mal à accepter comme un père, s'il m'aime vraiment, il ne peut pas me demander de remettre mon père dans ma vie. Et en plus de lui pardonner. J'estime que je suis une victime, que j'ai absolument rien cherché, que j'ai rien choisi, que j'ai pas voulu le mal, que j'ai pas fait le mal. Et pourquoi ce serait à moi de pardonner? J'ai absolument rien fait. Et Dieu ne peut pas me demander ça, c'est pas possible. Il sait Dieu, s'il me connaît vraiment, que je suis pas capable de pardonner. Et donc je mets cette idée dans un coin de ma tête, c'est hors de question, on peut pas me parler du pardon. Et les mois passent, je continue à être engagée dans mon groupe de prière. Et étrangement, toutes les homélies, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se rapportent au Père et au pardon. Au début, je cours dehors parce que je supporte pas ce mot-là, ni le mot Père d'ailleurs. Et puis plusieurs mois se passent et je revois mon accompagnateur qui fait la prière avec moi. Fait une prière et qui dit: Seigneur, je te demande de faire naître en Priscille le désir d'avoir l'envie de pardonner. Et à ce moment-là, je commence à... Enfin, c'est une véritable libération pour moi parce que je comprends à quel point Dieu, le Père, est pédagogue. Je comprends que c'est pas le pardon. Le pardon n'est pas la seule étape, n'est pas le seul aboutissement. Je comprends en fait que le Seigneur a besoin que j'ai l'envie de pardonner. Et qu'avant l'envie de pardonner, il y a le désir d'avoir l'envie de pardonner. Qu'en fait, il y a des étapes. Et ça faisait plusieurs mois que je me disais, mais Priscille, t'es chrétienne, du coup, il faut que tu coches cette case du pardon. Et en fait, là, je comprends que il y a des étapes et que le Seigneur me dit, le temps fait énormément de choses. Tout ce que je veux, c'est que tu sois orientée vers moi, que tu pratiques les sacrements, que tu ne nourrisses pas cette haine, mais voilà, que vraiment tu vives les sacrements, que tu regardes vers moi, que je regarde vers le Christ, et que la première étape, ce sera d'avoir l'envie, d'avoir le désir de pardonner. La deuxième étape, ce sera j'aurai le désir de pardonner. Et la troisième étape, ce sera le pardon. Et en fait, c'est une vraie libération. Je comprends que je ne suis pas pressée et que je suis libre et que Dieu m'accompagne, que Dieu me laisse libre d'avancer et qu'il m'accompagne avec bienveillance vers ce chemin-là. Et donc voilà, cette période dure 3 ans. Pendant 3 ans, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Je me laisse faire par l'amour de Dieu, je me laisse modeler, je me laisse consoler par Dieu. Et à ce moment-là, et puis au bout de 3 ans, je me réveille dans ma chambre de bonne, j'habite à Paris. J'ai rencontré entre-temps l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Voilà, il a fallu aussi travailler la confiance dans les hommes, il a fallu chacun arriver avec ses blessures et ses manques d'amour. Donc, il a fallu aussi cheminer et se faire accompagner. Et du coup, un matin, je me lève dans ma chambre de bonne et je prends à ce moment-là la décision d'aller voir mon père. Donc, je l'appelle. On fixe le rendez-vous au week-end suivant. Et je suis toute tremblante en arrivant devant sa porte d'appartement. Il est séparé de ma mère à ce moment-là. Je suis toute tremblante et je frappe à sa porte. Et ce que j'écris aussi dans mon livre, c'est que, en fait, à ce moment-là, je suis toute tremblante, mais je sais que je tiens une main qui est bien plus solide que la mienne, que j'ai décidé de lui pardonner à ce moment-là, non pas sous couvert de lui laisser une deuxième chance qu'il n'ait absolument pas intérêt à louper. Voilà, donc mon père m'ouvre. Et on est un peu comme deux étrangers parce que finalement, on a jamais vraiment réussi à se parler. La communication, ce n'est pas notre point fort à tous les deux. On s'est fait beaucoup de mal l'un et l'autre parce que je lui ai aussi fait du mal dans mes insultes et dans ma violence et dans la haine que j'avais contre lui. Et donc là, je lui dis que j'ai décidé de lui pardonner et que j'ai compris, en fait. J'ai compris que cette haine, en fait, c'était, j'avais l'impression qu'elle me représentait et que c'était mon identité. Que j'avais l'impression que je ne pourrais pas vivre sans elle, que je ne pourrais pas tenir debout sans cette haine-là. Et que voilà, je pensais qu'elle m'avait rendue forte, alors qu'en fait, elle m'entraînait de plus en plus bas dans les profondeurs et dans la noirceur d'un poison terrible. Et qu'en fait, j'avais bien compris que l'étape d'après, ça serait la mort. Et que l'étape d'après, justement, ça serait ne plus avoir peur de le tuer. J'ai compris aussi qu'en fait mon père était malade et qu'il n'avait pas été épargné lui non plus par cette maladie-là, qu'il en avait aussi atrocement souffert et que c'était pas un bourreau et une victime. Voilà, j'ai compris aussi que je l'aimais et j'ai choisi de continuer à l'aimer et j'ai choisi d'essayer de construire ce qui n'avait jamais été construit, même si au moment où je pose le pardon, je ne sais pas comment va se passer l'avenir, je ne sais pas s'il ne va pas me refaire du mal, je ne sais pas s'il va... Enfin voilà, j'ai peur de lui parce que il a toujours été une menace pour moi et aujourd'hui je lui laisse le droit de... Je le fais re-rentrer dans ma vie, mais j'ai décidé de lui rendre sa liberté et de me rendre ma liberté. Et je lui demande aussi pardon. Je lui demande aussi pardon pour le mal que je lui ai fait. Et à ce moment-là, je lui demande aussi de bénir mon couple parce que c'est très symbolique pour moi. En fait, j'ai envie de redonner sa place à mon père et je lui demande de prier pour ce que je suis en train de construire parce que Je vais construire une vie de famille, une vie de femme mariée, une vie de maman. Et voilà, et la bénédiction paternelle est importante pour moi, même si, bien sûr, que s'il n'avait pas validé mon couple, je construisais un couple dans la foi et avec le bon Dieu, et je savais que je prenais la bonne décision. Mais voilà, et à ce moment-là, du coup, je repars de ce rendez-vous-là. Et bah voilà, pendant plusieurs années, on va essayer de construire une relation. En tout cas, la haine, je l'ai donnée, enfin le pardon, je l'ai donné et je ne le récupérerai jamais. Le drame un peu dans cette histoire, c'est que bah, mon père arrête l'alcool et qu'il il tombe dans la maladie psychiatrique. Il est psychotique maniaco-dépressif. Et voilà, ça va être assez terrible. Et en même temps, je vais vivre cette deuxième maladie avec le Christ. Et je vais d'abord passer par une période un peu révoltée à dire au Seigneur, mais en fait, quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'à un moment, j'ai le droit, moi, de construire ma vie, de me reposer et de penser à moi? Mais voilà, je vais accompagner mon papa dans cette maladie qui va être dramatique parce que mon père a choisi il y a 4 ans de mettre fin à ses jours. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je peux dire que mon père m'a rendu ma liberté. Je peux dire que j'ai énormément d'amour pour lui malgré et avec tout ce qu'il m'a fait. Qu'il se repose au ciel, que maintenant il intercède pour moi et le jour de sa mort, le jour de son enterrement, je lui ai demandé de prendre soin de moi au ciel comme il aurait tant voulu le faire sur terre, parce que je sais qu'il m'aimait, parce que je sais qu'il voulait prendre soin de moi, mais qu'il n'a pas réussi, que ce n'était pas possible. Et je sais que depuis 4 ans, il prend soin de moi du ciel comme il aurait voulu le faire sur terre. Et je voulais vous partager, pour terminer, c'est un texte de Jean 5. Et je vous dirai après en quoi il résonne pour moi et en quoi il peut-être résonner pour vos vies. Donc, je vous lis le passage de Jean 5. Donc, un jour, Jésus était à Jérusalem. Dans cette ville, il existait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Aux côtés de cette piscine, beaucoup de malades, aveugles, boiteux et impotents étaient couchés. Il y avait aussi un homme qui était malade depuis 38 ans et qui attendait son tour pour descendre dans la piscine avec l'espoir d'être guéri un jour. Jésus, le voyant couché là, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Alors moi, c'est un texte qui résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ma vie parce que déjà, ce que je comprends, c'est que le Seigneur nous pose une question. Le Seigneur nous laissera toujours libres et il ne cessera jamais d'attendre notre oui. Et il nous demandera toujours « Veux-tu être guéri ?» Voilà, je trouve que c'est assez parlant sur la liberté que le Christ nous laisse. Donc voilà, il ne cessera jamais d'attendre notre oui. Et une fois qu'on lui aura répondu ce oui, le Seigneur nous guérit. Mais le Seigneur nous dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Il ne dit pas « Laisse ton brancard, lève-toi et va ». Il nous dit de prendre ce brancard-là. Et pour moi, ce brancard-là, c'est tout ce qui est dans notre vie, tout ce qui est meurtri. Tout ce qui, en fait, pendant plusieurs années, nous a cloués au sol, nous a laissés allongés. On était allongés, on était affligés, allongés sur ce brancard. On était dans la souffrance. On est parfois encore allongés dans cette souffrance-là. Mais une fois qu'on répond oui au Seigneur, je veux être guéri, le Seigneur, il nous dit de porter cette souffrance, de la regarder. Le brancard, il est là justement pour nous rappeler ce qui a été notre vie, ce qui a été nos traumatismes, ce qui a été notre plus grande souffrance, de le porter avec nous. Et c'est ce brancard-là qui nous fait rendre témoignage. C'est ce brancard-là qui est, qui est la représentation de la résurrection que Dieu a fait dans nos vies. Et voilà, c'est vraiment... aujourd'hui, mon brancard, c'est ma vie, c'est cette relation qui a été là avec mon père. C'est encore... voilà, encore aujourd'hui, je trimballe des difficultés, parfois des manques de confiance. Parfois, ce qui s'est passé me fait encore pleurer, m'affecte encore. Et à ce moment-là, mon seul désir, c'est de remettre ces souffrances-là à Dieu, de dire, ben voilà, là, mon brancard, il est un petit peu plus difficile à porter. Là, j'ai encore besoin de ton baume, de ta consolation sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui se réveille encore en moi. Mais Seigneur, voilà, rends ce brancard plus léger, aide-moi à l'aimer, à le regarder avec amour, avec bienveillance, avec compassion. Et puis quelque chose aussi qui est important, c'est prendre soin de soi et prendre soin de l'enfant qu'on a encore en nous et qui parfois se réveille en nous et qui souffre. Et voilà, et c'est vrai que ça m'arrive souvent de me prendre dans les bras moi-même, en fait, dans ces moments-là où le brancard est un petit peu plus douloureux et où il est un petit peu plus lourd, on le sent plus difficilement, enfin, c'est plus difficile de le porter. C'est-à-dire, ben voilà, je prends dans mes mains, dans mes bras, cette petite fille qui est encore un peu paniquée, qui est encore un peu, qui a besoin de tendresse, qui a besoin qu'on lui dise que ça va aller. Et avec le Christ, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. Ce que je peux vous inviter à faire pour ceux qui se sentent concernés par ce témoignage et qui peuvent être dans la souffrance, en plein dans la tourmente en ce moment, ou alors qui ont réussi à dépasser certaines choses, mais qui sentent que c'est encore fragile. Déjà, les messages que je voudrais vous faire passer, c'est que voilà, le temps fait énormément de choses. Que ce qui compte, c'est de s'accrocher bien fort au bon Dieu, c'est de le rencontrer dans votre chambre, que ce soit par les sacrements, dans votre chambre, devant un petit coin prière avec une petite bougie, que le Seigneur, je pense, ne demande pas des prières incroyables. Un « Je vous salue Marie », parfois ça suffit pour s'accrocher à lui. Et puis ce que je dirais aussi, c'est que l'accompagnement, c'est quelque chose... qui, je pense, est essentiel pour les personnes qui sont concernées. Et je parle d'un accompagnement spirituel, mais aussi psychologique. Voilà, ça a beaucoup été tabou, je trouve, dans notre milieu catholique, d'être accompagné psychologiquement. Et en fait, le psychologique et le spirituel, pour moi, il ne faut pas les dissocier. Les deux sont importants pour réussir à vivre, pour réussir à construire sa vie. Donc voilà, c'était un petit peu mes messages du jour. En tout cas, voilà, je prie pour chaque personne qui peut se sentir rejoint en ce moment dans sa vie personnelle. Et je vous assure qu'avec le Christ, tout est possible. Voilà.
Merci beaucoup, Priscille. Alors, quand vous avez dit que vous preniez vous-même dans vos bras, j'ai eu une image de Sœur Elvira, la fondatrice de la communauté du Cenacolo, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'étreinte », qui raconte l'histoire de la fondation de cette communauté, et où elle se prend elle-même dans ses bras, donc avec les bras croisés. Donc, j'ai eu cette image-là. Donc, voilà, une pensée pour cette très belle communauté. Priscille, nous avons une auditrice qui souhaiterait donner son témoignage. Il s'agit d'Yvonne. Yvonne, c'est à vous.
Oui, bonjour à tous. Voilà, donc j'ai entendu ce témoignage, ça m'a beaucoup touchée parce que moi je suis malade alcoolique abstinente. On n'a pas l'habitude de parler en nombre d'années. On parle juste pour aujourd'hui. C'est comme dans l'Évangile, être présent au jour d'aujourd'hui. Donc... moi, je pense que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une maladie. C'est une maladie qui n'est pas reconnue, pour laquelle la science ne fait rien. Et j'ai beaucoup écouté autour des tables des frères et des sœurs qui sont dans cette maladie, dans cette addiction, parce que ça peut être une addiction... De tout type de produits. Il se trouve que l'alcool est en vente libre et que c'est une drogue qui ne dit pas son nom et qui fait les mêmes dégâts que l'héroïne. Donc, quand on est pris dans cette tourmente, et qu'on descend au tréfonds, moi je m'en suis sortie en criant à Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et il a fait. Il a fait, il a mis sur ma route des gens qui m'ont aidée. Après, j'ai dû aller aux Alcooliques Anonymes parce que tout seul, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'en sortir. La personne qui est dans l'alcool, elle a vraiment besoin des autres. Et c'est là où on voit qu'on est une communauté. Et quand on regarde les fondateurs d'Alcooliques Anonymes, il ne faut pas oublier que c'est un programme de rétablissement spirituel aussi. Donc oui, Dieu intervient dans toutes les souffrances des hommes, j'en suis convaincue. Moi, il m'a sorti de cet enfer, ça fait déjà pas mal d'années. Mes enfants ne sont pas pratiquants, je ne peux pas dire qu'en tant que maman alcoolique, j'ai pu leur transmettre quoi que ce soit. Je les obligeais plutôt d'aller à la messe, parce qu'à 30 ans, j'ai retrouvé ce chemin. Et je suis persuadée de les avoir fait beaucoup souffrir. Mais j'ai eu cette grande grâce de pouvoir leur demander pardon. Et je peux vous assurer que on ne dit pas, et surtout en France où le vin, l'alcool est une culture, on ne dit pas assez que c'est une maladie. Et que les gens, une fois qu'ils sont pris dans ce tourbillon, ils descendent jusqu'aux portes de l'enfer. Et pour remonter, seul, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et le malade alcoolique, il souffre énormément. Et moi, je parle au nom du papa. Pas pour l'excuser, mais pour dire que quand on est malade alcoolique, on n'est pas nous-mêmes, on est à côté de nous-mêmes. La preuve, c'est qu'elle a vu un changement radical entre Arcachon et Paris. Donc voilà, en plus il y avait une double maladie. Et un alcoolique, il ne boit pas parce que c'est un vice, il boit parce qu'au fond de lui, il a un amour inassouvi et qu'il a besoin de remplir, de se remplir, une angoisse, un amour qui lui manque. Et moi, personnellement, en n'ayant même pas une mère alcoolique, mais une mère violente et méchante, j'ai pu pardonner simplement en me disant, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, elle, et peut-être qu'elle a vécu. J'aimais beaucoup cette phrase de Marthe Robin qui dit, on ne peut donner que du trop plein de soi-même. Et le trop plein, parfois on se remplit bien, parfois on se remplit mal. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça, remercier cette personne de faire ce témoignage, la remercier d'avoir pardonné et lui faire comprendre que elle a souffert, mais lui, il a aussi souffert. Et qu'elle s'en soit rendue compte, c'est merveilleux. Et mes enfants qui ne pratiquent pas, eux, le fait de leur avoir demandé pardon, je pense que l'amour qu'on a les uns pour les autres, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, elles ne sont pas alcooliques, elles n'ont pas galéré comme moi seule avec des enfants, les enfants leur font la tête, on ne sait même pas pourquoi. Voilà, mes enfants ont fait tous les deux de l'humanitaire. Moi-même, à 50 ans, je suis partie en Israël pendant un an chez les filles de la charité. J'ai vraiment essayé de rendre au Seigneur ce que ma pauvre personne peut lui rendre, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, ce que je lui rends, c'est que ce qu'il m'a donné, quoi. Et tous les jours, moi, je prie pour mes frères et sœurs qui sont dans l'alcool, parce que je vois leur parcours. Et croyez-moi, c'est raide. Voilà, merci.
Oui. Yvonne, si je peux me permettre, déjà, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Je trouve que vous avez dit des choses très importantes et c'est vrai que j'en ai pas parlé, notamment toutes les associations qui aident les personnes malades de l'alcool. Et effectivement, j'ai été amenée à accompagner mon père dans cette association, notamment la Croix d'Or. Et c'est vraiment, moi, je les remercie d'exister parce qu'ils m'ont fait comprendre effectivement que c'était un combat qui concernait beaucoup plus de monde que juste mon père. Et c'est, je les remercie d'exister parce que même si en soi ça n'a pas guéri mon père, en tout cas il a pu rencontrer des personnes qui s'en étaient sorties, des personnes qui avaient tout perdu, et peut-être que ça l'a fait réfléchir. Et voilà, c'est une très très belle communauté. En tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, qui font partie de Alcoolique Anonyme ou la Croix d'Or ou quelque autre association, et c'est très très bien qu'elles existent. Voilà, et effectivement, le malade de l'alcool souffre énormément, et ça, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que j'écris aussi, qu'effectivement, personne n'est épargné, ni l'entourage, ni la personne alcoolique.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, pardonnez-moi de vous couper, parce que vous êtes de l'autre côté de la barrière, et moi, j'étais dedans. Donc,
ouais.
On est complémentaires dans notre témoignage.
Oui, oui, mais je suis très touchée que vous appeliez, et bravo pour le combat que vous menez et que vous avez mené pour vous sortir de ça. Et vraiment bravo, bravo. Et c'est une très belle chose que vous intercédiez pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir.
Eh bien, c'est possible. Il faut leur dire que c'est possible.
Oui.
À Dieu, rien d'impossible. Et c'est pas la peine. Quand on parle de Dieu, parfois, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement fâchés. Le mot, rien que le mot père, c'était horrible pour eux. Alors, il y a certaines associations, dont celle que j'ai fait partie, où la religion, on l'appelle pas Dieu, on l'appelle puissance supérieure. Je vais vous faire une petite anecdote. J'ai un ami, Ara, qui a été ovinatier suite à une crise de délirium. Ça a été vraiment très dur pour lui. Et il appliquait le programme des Alcooliques Anonymes avec la prière de la sérénité. Et il voit une sœur qui passe comme ça, puis il lui dit « Bon, ben moi, je ne suis pas votre bon Dieu, mais je n'arrive pas à prier, moi, j'y comprends rien, puis de toute façon, j'y crois pas et tout. » Et la sœur lui répond « Ben, t'as qu'à prier le rebord de ta fenêtre. » Et ben pour lui, rien que ça, ça a marché. C'est fou, quand même. C'est fou.
Bah, merci, Yvonne, en tout cas.
Et je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.
Merci,
Bonne
Yvonne.
Journée, au revoir.
Voilà, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. J'aurais peut-être une petite question, et justement... Yvonne, dans son témoignage, a parlé de sa maman qui était violente, et dont elle disait qu'elle ne savait pas dans son histoire ce qui pouvait expliquer cette attitude. Est-ce que vous-même, vos sœurs et votre maman, est-ce que vous savez ce qui a déclenché cette fragilité chez votre papa ?
Alors, pour écrire mon livre, il a fallu que je remonte l'échelle de l'histoire familiale. Donc oui, c'est un mélange de fragilité, d'idéalisme, une histoire familiale aussi un peu compliquée. C'est un mélange de plein de choses et dans une qui arrive, et mon père était très très sensible, donc ça a été son chemin, ça a été sa voie de secours, ça a été l'alcool, mais oui, c'est un mélange de plusieurs paramètres qui arrivent en même temps et qui bousculent toute une vie, quoi.
Et ce déménagement en région parisienne, finalement, est-ce que ça a été un déclencheur de tout ce qui est arrivé? Simplement ce fait de changer d'environnement, peut-être de changer de travail, parce que c'est certainement ça qui a été la cause de votre déménagement. Est-ce que justement ça a été la goutte d'eau qui a fait tout basculer?
Alors, effectivement, alors déjà, il était fragile bien avant, c'est-à-dire qu'il était fragile bien avant son mariage. Hein. Donc, est-ce que si on était resté à Arcachon, les choses auraient été différentes? Je peux absolument pas je pense que ça se serait passé de la même manière. Mais en soi, oui, le changement de travail n'a pas aidé parce que c'était un travail qui a été compliqué pour lui. Après, la fragilité était déjà là bien avant son mariage. Donc, je peux pas réécrire l'histoire. Je peux pas dire que c'est ce qui a tout déclenché. En tout cas, ça a aidé à. Peut-être que ça aurait été moins terrible si on était resté. Mais ça, j'en sais rien du tout. Voilà.
Seul Dieu le sait.
Ouais. Et quelque part, peu importe en fait. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui tout aille bien et qu'on ait vécu ce chemin, lui et moi, de pardon. Voilà.
Alors, avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez peut-être un message particulier pour les auditeurs de Radio Maria?
Je redirai encore ce que j'ai dit à la fin de mon témoignage. Je leur dirai d'être bienveillants, de regarder leur histoire avec amour, de regarder leur fragilité avec tendresse et de se confier au Seigneur. Et puis si, je dirais quand même quelque chose d'important, qui est aussi le message de mon livre. Et le message de mon livre, c'est « Dieu ne te sauve pas sans toi ». Ça veut dire qu'effectivement, Dieu peut faire beaucoup, et Dieu fait énormément dans chacune de nos vies. Mais je réinsiste sur le fait que Dieu nous pose une question, et qu'il y a une part de choix à poser, il y a une part de volonté à vouloir y arriver, à vouloir s'en sortir. Et voilà, Dieu ne nous sauve pas sans nous. C'est-à-dire que Dieu a besoin de notre collaboration. C'est aussi un travail d'équipe. C'est pas juste j'attends tout de Dieu et moi je ne fais rien et je ne choisis rien. Dieu se sert de nos choix pour nous faire avancer vers la liberté. Voilà ce que je dirais.
Merci beaucoup Priscille. Alors juste un dernier message de Marie qui écrit « Merci pour votre témoignage et votre courage. Pouvez-vous nous dire le titre de votre livre ?» Oui, on va redire le titre de votre ouvrage Priscille. Donc c'est « Du poison ». Oh pardon, on a compris que le poison, il s'agissait de la haine, c'est bien ça ?
Oui, et puis il peut y en avoir plusieurs parce qu'il y a, il y a l'alcool aussi, voilà. Mais oui. C'est la haine surtout.
Du poison au pardon, aux éditions du Sacré-Cœur par Priscille Roquebert. Merci beaucoup Priscille et puis peut-être à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.